Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une conversation féminine, authentique et pleinement intelligente, ancrée dans son monde d'intelligence artificielle et de développement technologique. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mérim Haddouchi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Mérim?
Merci pour l'invitation. Ça va très bien, merci. Et vous?
Un grand plaisir de vous recevoir. Alors Mérim, dans un petit moment, on va parler de l'application que vous avez développée. Mais avant ça, j'ai envie de comprendre en fait comment est-ce que vous avez atterri dans le monde de la tech.
C'était sortie d'école. J'ai démarré dans le monde de la tech juste après mes études à Hawaii. Donc j'ai fait l'ingénierie. Donc du coup, c'était un parcours qui allait de soi.
Directement.
Directement.
Directement. Oui. Alors, en sortant justement de l'université, vous étiez déjà dans cet esprit d'innovation, de création, ou plutôt assurer un job, rentrer dans une entreprise, être beaucoup plus, on va dire, dans les rangs.
Alors bon, avec l'éducation que j'ai eue, c'était principalement il fallait trouver un job. Ouais. Sortir de l'université, trouver un job, bien placé, avoir un bon salaire à la fin du mois, qui tombe chaque mois. Et donc j'ai essayé au tout début, j'ai fait quelques petites expériences juste après l'université, mais après je voyais que j'avais envie de créer, j'avais envie de monter mon propre produit, d'avoir ma propre boîte et donc du coup j'ai quitté le salariat très tôt pour aller vers l'entrepreneuriat.
Alors quand on parle d'entrepreneuriat, et surtout en milieu de tech, on parle aussi de beaucoup d'investissement, beaucoup de frais. Est-ce que c'est vrai?
Tout à fait. Démarrer une nouvelle entreprise dans la tech, ce n'est pas simple. Ça coûte beaucoup, surtout. On a besoin d'utiliser beaucoup d'outils, sans parler des moyens humains. Mmh. C'est-à-dire que déjà, tout ce qui est en relation avec l'infrastructure, tout ce qui est en relation avec les coûts des différents outils qu'on utilise au quotidien, déjà, c'est un grand coût. J'avais la chance d'avoir un partenaire qui est mon CTO et qui lui aussi maîtrise l'aspect développement et autres. Et donc avoir un partenaire, ça fait en sorte que les coûts sont moins difficiles à absorber.
Mmh. Mais vous êtes allé dans tout ce qui est levée de fonds directement ou plutôt crédit?
Alors jamais, aucune levée de fonds. Je vais du principe que si on construit une entreprise, on a envie de pouvoir la gérer comme on veut. Mmh. On a envie de pouvoir définir son parcours, définir son orientation. Et donc, pour moi, avoir un investisseur, c'est principalement avoir quelqu'un qui nous dicte exactement ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va développer le produit, à qui on va le vendre, comment. Et on parle généralement, quand on a des investisseurs, d'exit strategy. Donc, quand est-ce qu'on va vendre, à combien et autres.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est une optique qui ne m'intéressait pas du tout. Pas d'investisseurs et fonds propres avec les moyens du bord.
Ouais. Avec les moyens du bord. Alors, vous êtes allé sur quel domaine exactement de la tech?
Alors, j'ai démarré ma carrière avec du consulting et donc c'était principalement de la modélisation de process et c'est quelque chose que je fais toujours. Mmh. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir les fonds nécessaires pour faire de la recherche et développement et donc de développer les produits. Mmh. Au début de ma carrière, c'était principalement les CRM, ERP, tout ce qui est plateforme de gestion et d'automatisation des entreprises et des process des entreprises. Donc c'était une bonne continuité. Après la modélisation de process, donc il faut toujours mettre en place un outil pour automatiser ces process. Et puis, au fur et à mesure, on voit plus d'opportunités, d'outils à développer. Et donc la première expérience, c'était une application mobile Kodokook qui est principalement faite pour la cuisine. Et donc ça, c'était un projet de passion. Donc c'était une application web.
Oui. Les deux, la cuisine et la tech.
Et la tech, exactement. Donc ça, c'était durant Covid. On s'est dit, bon, bah, avec mon mari, on s'est dit, bon, bah, tu aimes bien cuisiner. Il me fait, bah, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas une application vu qu'on sait le faire, on peut le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas une application mobile pour que tu puisses l'utiliser? Et donc, on a lancé Kodo Cook qui maintenant tourne et a 1000 utilisateurs chaque mois d'une manière organique. Et puis, il y a 3 ans, on s'est lancé dans l'IA et développement d'une application de gestion documentaire dans l'IA, Doclarity.ai. Et donc, on s'est concentré encore plus sur ce volet-là.
Alors, vous avez parlé de recherche et développement, justement, et de ce cercle virtueux que vous avez su créer grâce à vos missions de conseil. Et finalement, c'est ça qui injecte de l'argent pour pouvoir aussi développer les applications, c'est ça, et les outils.
Exactement, tout à fait. Donc, on essaye de tout faire en fonds propres, ne pas aller vers des crédits qui seront difficiles à solder en fin de mois,
oui.
Et ne pas aller vers des investisseurs qui vont nous dicter exactement ce qu'on doit faire sur le produit. Donc, principalement, c'est toujours des prestations de services qu'on offre qui nous permettent de faire de la recherche et développement en continu.
Ouais. C'est un peu un laboratoire, en fait.
Oui.
C'est un peu un laboratoire de recherche. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la journée, elle est divisée comment? On va dire, ou la semaine, elle est divisée comment? Parce que toute la journée, quand on est en conseil, c'est toute la journée, en fait. Et c'est plusieurs journées par semaine. Et donc, finalement, cette recherche et développement, elle se fait à quel moment sur les 24 heures?
À tout moment de la journée.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est entre les meetings, le conseil quand on est sur une mission, bah, ça sera aussi le soir, travailler le soir et au-dessus. Donc du coup, la recherche et développement, ideation process pour tous les produits qu'on a développés, parce qu'on en a plein qu'on a développés, qui n'ont pas vu le jour, qu'on n'a pas commercialisé. Donc c'est un travail continu, c'est-à-dire c'est entre les différents calls, c'est être impliqué à tout moment de la journée. Il n'y a pas de moment précis.
Et cette nouvelle vie, elle vous convient beaucoup plus que celle de la salariée?
Beaucoup plus pour 3 raisons. La première, c'est que j'ai de l'impact, c'est-à-dire que je sens que tout ce sur quoi je travaille a de l'impact. Alors que d'un point de vue salarié, j'avais l'impression que c'était plutôt fournir exactement les mêmes tâches répétitives au quotidien. Et donc, du coup, on ne sent pas qu'on construit quelque chose, alors que l'entrepreneuriat, on construit. Et c'est encore mieux quand on construit pour soi-même. Deuxième aspect, c'est avoir toujours des challenges, c'est-à-dire que pouvoir réfléchir et faire de la R&D, c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose qui nous booste à améliorer nos produits pour nos clients existants. C'est des produits maintenant qu'on commercialise, donc on a des retours d'utilisation et donc du coup c'est toujours constant improvement. Et puis le troisième aspect qui est le plus important, c'est avoir un bon work-life balance, c'est-à-dire pouvoir en même temps travailler et en même temps pouvoir lâcher prise quand il le faut pour prendre du moment pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Ça, c'est la valeur, la plus grande valeur ajoutée de l'entrepreneuriat, c'est voir ses enfants grandir.
Alors, vous avez évoqué votre mari tout à l'heure en disant, voilà, il a dit, on sait faire ça. Ça veut dire qu'il est dans le même domaine que vous. Est-ce que vous travaillez ensemble?
On travaille ensemble.
Ok, ça fait quoi de travailler en couple?
Alors, perspective d'autres personnes, ils diraient que c'est pas facile, c'est une gestion. Pour nous, on va dire qu'on a un bon cloisonnement entre la vie perso et la vie de travail. Ça nous permet d'avancer vite parce qu'on n'a pas de limite, c'est pas des horaires de bureau. On se dit, bon, bah, à 6 heures, on ne peut plus parler de ce métier, de ce projet ou autre parce que la journée de travail est finie. Pour nous, c'est principalement... on est en cuisine, on est en train de cuisiner le repas et en même temps, on est en train de parler du produit, on est en train de parler de son développement, de comment le faire évoluer. Donc du coup, pour moi, je me dirais que c'est une grosse valeur ajoutée.
D'autres diraient que vous n'arrivez pas à couper.
Oui.
Mais c'est pas le cas.
On a cette perspective des restes de notre famille, du reste de notre famille. Où ils sont là en mode, vous êtes toujours en mode boulot.
Ouais.
Mais nous, c'est plutôt, toute l'année, on bosse. Et puis, quand il le faut, notre fille a des vacances scolaires. Bah, on peut se permettre d'arrêter et de partir en vacances.
Ouais. Et en vacances, vous parlez, vous continuez à parler de projets ou pas?
Toujours.
Toujours.
Généralement, en vacances, c'est les meilleures idées parce qu'on n'a pas le stress du quotidien.
Ouais.
On n'a pas les équipes à gérer, on n'a pas le volet client ou administratif ou autre qui reprend le dessus. Donc, on a les idées claires et ça nous permet généralement de faire évoluer nos produits.
Alors, vous avez développé, entre autres, une application de cuisine immersive. Est-ce qu'on se fait de l'argent en développant ce type d'application?
Sur la durée, oui. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la monétisation,
oui.
On prend du temps à y arriver parce qu'on a besoin de stabiliser son produit. Parce que quand on lance une application, il y aura des bugs, il y aura des cas d'utilisation qu'on n'a pas vus. Oui. Donc du coup, on est resté pendant 2 ans sur du freebie, c'est-à-dire l'application est gratuite. Et donc, ça nous a permis d'avoir des utilisateurs et puis derrière de pouvoir améliorer le produit. Et à partir de ce moment-là, quand on a commencé à avoir les bons reviews, quand on a commencé à avoir une base d'utilisateurs qui était récurrente, donc c'est là où on a rajouté des maillons de monétisation. Et donc à ce moment-là, l'application elle tourne, elle a des utilisateurs qui sont payants. Est-ce que c'est rentable à date d'aujourd'hui? Pas encore. C'est-à-dire que ça prend du temps. Il faut avoir les reins solides, il faut persévérer et attendre que ça prenne quoi.
Ouais. C'est un marathon en fait.
Ouais. Et derrière, il faut être smart parce que on a 2 options quand on lance une application. C'est soit se dire OK, on va tout dépenser en budget com et marketing. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir faire en sorte que l'application soit visible, que tout le monde ait accès à cette application rapidement. Et donc derrière, on va essayer de monétiser tout utilisateur qu'on a. Ou sinon, on se dit OK, on va être créatif. Vu qu'on est dans la tech, donc on utilise encore des outils pour faire en sorte que le coût de l'utilisateur soit le plus faible possible. Et donc, on a tout misé sur un SEO qui était organique et qui permet aujourd'hui de réduire le coût d'acquisition du client. Donc, c'est un travail de longue haleine.
C'est un travail de longue haleine, absolument, absolument. Mais parfois, est-ce qu'il y a ces doutes qui s'installent, cette remise en question, le doute dans le projet même?
Toujours.
Oui.
Toujours. Et je pense que c'est la base et le fondement d'un bon produit, que ce soit une application mobile, une plateforme web ou autre. La base, c'est à chaque fois de se dire est-ce qu'on a fait les bons choix. Aujourd'hui, par exemple, avec notre dernier produit, Doclarity.ai, on l'a lancé il y a 3 ans. Et on a eu des doutes tout au long du parcours. Des doutes parce qu'on se disait, on voyait qu'il y avait d'autres outils qui sortaient. Et on se disait, est-ce qu'ils font la même chose? Et donc, est-ce que ça vaut la peine de continuer sur...
C'est un outil qui fait quoi exactement?
Alors, Doclarity.ai, il a une cible beaucoup plus B2B. Et c'est principalement pour les organisations et les institutions qui gèrent une grande base documentaire et qui ont besoin de faire de l'analyse et de la rédaction basée sur ces documents. Et il est né du fait que, on a vu qu'il y avait beaucoup d'outils comme ChatGPT, Gemini et autres qui étaient utilisés par les entreprises, pas d'une manière formelle, qui étaient utilisés par les employés,
oui.
Et qui faisaient en sorte qu'ils aient des rendus, des rapports, des documents et autres qui étaient générés par ces outils qui n'étaient pas ancrés dans la vérité. On voit qu'il y a beaucoup d'hallucinations, qu'il y a beaucoup de créativité des modèles actuels. Et donc, on s'est dit, il nous faut une plateforme qui puisse quand même donner à l'entreprise une vérité qui est ancrée dans ses propres documents, dans ses propres procédures, dans tout ce qu'elle a généré. Donc, en gros, si je pose une question, la plateforme, elle est capable de me dire, vous n'avez pas cette information. C'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle, mais c'est une intelligence artificielle qu'on a ancrée dans la réalité de l'entreprise.
De l'entreprise, ok. Voilà. Mais pour ça, vous avez besoin aussi, pour nourrir la machine, qui vous donne toutes ces informations?
Première étape, c'est la documentation, les archives et autres de l'entreprise en elle-même. Okay. C'est elle qui fournit ses propres documents.
D'accord, ok.
Alors, et donc, oui, ces documents-là sont ingérés, ils sont indexés, il y a tout un travail en amont qui est fait pour faire en sorte qu'après, on puisse give back la data d'une manière qui soit correcte.
Et chaque entreprise est indépendante, en fait, en termes de ce qu'elle met comme info et comme input dans la machine.
Exactement. On est en plein dans la souveraineté de la data.
C'est ça.
C'est-à-dire que la souveraineté de la data, c'est plus que le local où on stocke cette data physiquement. C'est principalement se dire, est-ce que cette data, elle m'appartient? Elle est à moi. Où est-ce qu'elle est stockée? Elle m'appartient. Et il n'y a pas de fuite entre ma data et celle d'une autre entreprise lambda.
Contrairement aux autres
outils.
Tout à fait, absolument.
Tout à fait.
Alors, vous avez participé au programme Tech Women 2022, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que ça représente, justement?
Ça représente beaucoup de choses. C'est un programme qui est basé sur 2 mois, c'est-à-dire qu'on passe 2 mois au cœur de la Silicon Valley. Et on rêve tous, moi, je sais pas moi, dans la tech, on rêve tous d'aller à la Silicon Valley, de voir Facebook, LinkedIn, Google et tout ça. Et on se dit, ça doit être magique et on veut voir comment est-ce que la magie opère. Et donc déjà, il y avait cet aspect-là de découverte de ces entreprises-là. Mais le plus important, c'est que on était en immersion à l'entreprise. Moi, j'étais notamment chez une grande entreprise de e-commerce dans la Silicon Valley, l'e-commerce. Et donc, c'était un échange. C'était un échange de comment ce que nous, on procède au Maroc, dans ma boîte en particulier, et comment est-ce qu'eux, ils procèdent, et pouvoir mutuellement faire du mentoring pour pouvoir arriver à se développer et à pouvoir créer plus d'une manière qui est beaucoup plus autonome, qui est beaucoup plus avant-gardiste. Donc ça, c'était d'un point de vue projet, on va dire, professionnel. D'un point de vue personnel, on a eu accès, on va dire, à des mentors qui nous ont permis de nous développer, qui ont permis de développer que ça soit notre personnalité, notre manière de faire les choses, mais aussi de s'ouvrir au monde. Et j'en reviens avec une communauté de femmes qui opèrent dans la tech et qui sont là pour se soutenir mutuellement, pour pouvoir arriver à développer nos propres entreprises.
Alors justement, parlant de femmes dans la tech, et au Maroc en particulier, il y a pas mal de cellules ou d'associations, de groupes de femmes qui se soutiennent dans ce sens-là. Mais comment vous évaluez la présence féminine?
Alors c'est une très bonne question. En prenant en perspective le programme Tech Women, avant Tech Women, je n'avais pas de groupe de femmes, c'est-à-dire il y en a beaucoup. On essaye, et sans donner les noms, on va aller, on va participer, on va voir certains événements, il va y avoir des petits gatherings et tout ça, mais après, derrière, on n'en ressort pas avec quelque chose qui nous apporte de la valeur. Après ce programme-là, j'ai pu rencontrer des femmes qui étaient dans le même domaine que moi, mais aussi qui avaient le même mindset. Parce que c'est ce qui est vraiment important, c'est avoir la même perception des choses et de comment est-ce qu'on veut évoluer. Et on se rend compte que la femme, que ce soit au Maroc ou même à l'étranger, on a vu la même chose à la Silicon Valley quand on y était, elle est mal représentée dans le monde de la tech. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce domaine-là, mais qui ne se connaissent pas et qui opèrent dans le noir. Et ces outlets nous permettent de nous rencontrer et puis de commencer à échanger, à construire quelque chose de beau. Dernièrement, il y a moins d'un an, on a lancé le chapitre marocain de Women in AI Global au Maroc. Donc il y a Women in AI Morocco. Et depuis son lancement en mai sur le Maroc, ce qu'on a réussi à faire, c'est créer une association qui permet de regrouper toutes ces femmes et hommes aussi, qui opère autour de l'IA. Et ça permet vraiment de monter en compétences ensemble. Parce qu'on sent que quand on est isolé, par exemple, moi, je suis dans mon entreprise, je suis isolée, je n'ai pas une bonne perspective de l'extérieur. Je vois mes clients et donc j'ai une perspective de mes clients, de comment est-ce qu'ils opèrent, ainsi de suite. Mais il n'y avait pas ce cercle de femmes qui peuvent se booster mutuellement pour pouvoir construire quelque chose et pouvoir évoluer et faire briller la femme marocaine dans le monde de la tech.
C'est vrai, absolument. Quand on évolue seul, on n'a pas assez d'input de l'écosystème. Absolument, absolument.
Tout à fait.
Alors, ça c'est un fait. Nous avons au Maroc beaucoup de femmes diplômées, ingénieures qui sortent chaque année.
Et oui, on a des têtes.
On a des têtes. Malheureusement, certains, justement, soulignent le fait que ces têtes, eh bien, n'avancent pas beaucoup. On ne les voit pas ensuite à travers le temps évoluer, se développer et en fait, donner leur plein potentiel. Est-ce que vous remarquez ça aussi?
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. On a l'impression que le seul moyen de bien évoluer dans un parcours tech, c'est d'être son propre patron. Dans les entreprises marocaines classiques, une femme, même si elle est experte dans son domaine, elle aura toujours des contraintes familiales. C'est-à-dire qu'on voit que les enfants, la maison et autres, c'est les contraintes de la femme. Et donc, du coup, ces femmes-là n'évoluent pas juste parce qu'il y a cette contrainte-là, parce qu'on se dit que, bon, à un certain moment, elle va avoir un enfant, elle aura un congé maternité, donc elle sera moins productive, elle aura des enfants à gérer, donc elle devra sortir plus tôt, ainsi de suite. Et donc, ça reste toujours le job de la femme. Et donc, on la pénalise pour ce job-là. Et il y a des études qui sont sorties récemment de Stanford qui montrent réellement les écarts en termes de salaire, les écarts en termes de position dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes expertes, mais elles sont rares.
Elles sont rares, oui.
Elles sont vraiment rares.
C'est ce qu'on souligne, en fait.
Tout à fait.
C'est ce qu'on souligne.
Et donc, le seul moyen de percer, c'est d'avoir sa propre entreprise et donc, à ce moment-là, de voler solo.
Eh bien, merci infiniment, Madame Haddouche, d'avoir été là et d'avoir été ma femme d'aujourd'hui et d'avoir eu cette conversation honnête, féminine et authentiquement intelligente.
Merci beaucoup, Yasmine.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.